de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La Malaisie et la Chine ont signé un partenariat pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement en huile de palme. Un incendie de forêt dans le centre-ville de Séoul a forcé l'évacuation de 120 maisons. Le ministre indonésien des Finances rencontre le ministre de l'Économie et des Finances du Brunei Darussalam. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le Conseil malaisien de l'huile de palme, cité par Reuters dimanche, a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec une association commerciale soutenue par le gouvernement chinois pour renforcer le commerce et la coopération en matière de huile de palme. Il a déclaré son partenariat avec la Chambre de commerce chinoise d'importation et d'exportation de produits alimentaires, les produits authentiques et les sous-produits animaux, aiderait la Malaisie à regagner des parts de marché en Chine. La Malaisie est le deuxième plus grand producteur d'huile de palme au monde et la Chine est le deuxième acheteur d'huile de palme au monde. Promouvrant conjointement l'utilisation de l'huile de palme malaisienne durable en Chine. Ils développeront également la conception et la mise en œuvre de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle dans les plantations de palmiers à huile. Un incendie de forêt dimanche dans le centre de Séoul a forcé l'évacuation d'au moins 120 maisons dans la capitale densément peuplée. Les autorités citées par Reuters ont déclaré que l'incendie avait brûlé une forêt de la taille d'environ 30 terrains de football avant qu'il ne soit presque éteint à 17h. Aucune victime n'a été signalée. La fumée s'échappant de la forêt pouvait être vue à travers la ville alors que les pompiers luttaient pour éteindre l'incendie avec des bombardiers à eau. Un témoin oculaire a déclaré que plusieurs hélicoptères ont été vus survolant la rivière Han dans le but de fournir de l'eau pour éteindre l'incendie. La ministre des Finances de la République d'Indonésie, Madame Sri Mulyani, a rencontré bilatèrement le ministre de l'Économie et des Finances du Brunei Darussalam, Dato Amin Liu Abdullah, en mars des réunions au niveau du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque centrale de l'ASEAN à Bali, week-end dernier. Cité par Antara dans un communiqué officiel dimanche, les deux ministres ont discuté de la structure de l'économie de l'ASEAN qui est assez résiliente en pleine crise et capable de se redresser assez rapidement. La ministre Sri Mulyani a demandé le soutien du ministre Dato Amin pour les livrables économiques prioritaires qui a été portée par l'Indonésie dans le cadre de la présidence indonésienne actuelle. À cette occasion, le ministre Dato Amin a félicité l'Indonésie pour le succès de l'Indonésie dans la présidence indonésienne du G20 et son soutien pour le livrable économique prioritaire nommé par l'Indonésie sur la présidence de l'ASEAN 2023 qui a une continuité. La ministre indonésienne des Finances, Madame Sri Mulyani, a tenu une réunion bilatérale avec le Conseil des entreprises de l'Union européenne et de l'ASEAN, ou EUABC, à Bali le week-end dernier. Citée par Antara du communiqué officiel dimanche, la délégation de l'Union européenne et de l'ASEAN, dirigée par le vice-président de EUABC, Tassilo Brinzer, et accompagné de 13 membres de Suisse Standard Charter, SSBC, Prudential Suisse, BASF, World Gold Council et Zurich Parma. La principale discussion de la réunion bilatérale était de savoir comment renforcer la collaboration pour le processus de reprise et de reconstruction après la pandémie. Certaines des choses qui ont été transmises par les ministres, cela veut dire par les membres de EUABC, comprenaient l'importance de développer une économie numérique, la santé, les véhicules électriques, l'assurance et le développement de l'énergie propre. Dans la dernière partie de cette réunion bilatérale, EUABC a exprimé son soutien au processus de développement en Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le grand séisme de magnitude de 7,2 dans le pays de Papouasie-Nouvelle-Guinée tôt lundi matin a été enregistré par le réseau sismique de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique. Cela a été révélé par le chef du Centre de tremblement de terre et des tsunamis, M. Daryono, à Jakarta, lundi cité par Antara. Daryono a déclaré que jusqu'à présent, le tremblement de terre avec un mécanisme de glissement, il n'y a pas encore de rapport de dommages ou de victimes. L'épicentre était sur terre à 115 km au sud-ouest de Wewak, avec une profondeur de 93 km. Avec le grand tremblement de terre, des répliques se sont produites dans le pays de Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec un épicentre n'est pas loin du point de départ, avec une profondeur de 10 km. Le tremblement de terre a été ressenti dans la province de Papouasie, l'Indonésie, comme à Kerom, la ville de Jayapura, la régence de Jayapura, Wamena, Nabire et Merauke. L'entreprise publique de PT Pupuk Indonesia prépare des mesures pour développer l'ammoniac afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le directeur principal adjoint de Pupuk Indonesia, M. Nugroho Kristianto, a déclaré lundi que l'une des étapes était la collaboration et la coopération avec plusieurs clients propriétaires de technologie. Pupuk Indonesia a commencé à le mettre en œuvre en collaboration avec Toyo Engineering Corporation et Mitsui. Le directeur général, le directeur de division de solutions business de Toyo Engineering Corporation, Eiji Sakata, a déclaré que Toyo était prêt à aider Pupuk Indonesia et le gouvernement à réduire les effets de serre émissions de gaz. Pour cette raison, Toyo collabore avec Pupuk Indonesia pour construire une usine en Indonésie pour produire de l'ammoniac. Le ministère de la Communication et de l'Informatique a déclaré qu'il préparerait l'Internet mobile à Goromori, Nusa Tenggara Est, qui a accueilli le sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Cela a été déclaré par le directeur général de l'Information et des Communications publiques de ce ministère, M. Ousmane Kansong, dans sa déclaration dimanche. Ousmane a déclaré que l'Internet mobile était prêt à atteindre la portée et améliorer la qualité des réseaux Internet dans la région. Cette année, l'Indonésie présidera ASEAN sur le thème « question de l'ASEAN, épicentre de la croissance. Le sommet de l'ASEAN 2023 se tiendra deux fois, en mai à Labuan Bajo et septembre à Jakarta. L'Indonésie soulève des questions prioritaires lors de la présidence 2023 de l'ASEAN, à savoir la relance et la reconstruction, l'économie numérique et le développement durable. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Cerita ke bonsoir, voici le comment terre et en pour la titre, le contrôle du recevement de la terre et l'intérêt commun. La communauté mondiale en général comprend déjà que la planète Terre occupée par les humains se réchauffe de jour en jour. L'impact étant immense et global. Le nouveau rapport de synthèse 2023 publié par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, explique que la génération d'humains qui naissent maintenant à un âge plus avancé sera confrontée aux très graves problèmes dus au réchauffement climatique. Actuellement, près de la moitié de la population mondiale vit dans des zones très vulnérables aux impacts du changement climatique. Ce rapport est le sixième cycle, à savoir la combinaison d'une série de conclusions des six rapports précédents publiés depuis 2018. Le réchauffement de la Terre elle-même est causé par l'impact ou l'effet de serre dû à divers gaz produits par les activités humaines. Les combustibles fossiles sont l'un des contributeurs aux gaz à effet de serre. En plus de cela, un mode de vie qui gaspille de l'énergie, gaspille de l'eau et exploite les ressources naturelles met également en danger la planète Terre entière. De 2011 à 2020, la température de la Terre a augmenté de 1,1 degré Celsius par rapport à la période 1850 à 1900. Récemment, les vagues de chaleur, les longues saisons sèches, les incendies de forêt, les pénuries d'eau et de nombreuses mauvaises récoltes ont frappé divers pays les uns après les autres. Le phénomène inverse est également courant, comme les fortes pluies qui provoquent des inondations, ainsi que les tempêtes avec une intensité et une fréquence élevées. Le réchauffement provoquent la fonte des glaciers et des calottes glaciaires aux deux pôles. Conséquence, le niveau de la mer a monté. Les premières à en ressentir les effets sont les petites nations insulaires. Le monde doit donc se préparer et s'adapter au changement climatique. Entre autres, en construisant des barrages et des cours d'eau adéquats pour faire face aux inondations. En outre, arrêter l'exploitation forestière, encourager le verdissement dans les villes qui se réchauffent, restaurer les zones marécageuses et mettre en place une agriculture respectueuse de l'environnement. Le réchauffement climatique provoque également l'extinction de divers types de flore et de faune, détruisant ainsi les écosystèmes. Le sommet mondial sur le changement climatique de 2015 à Paris a convenu d'empêcher que la Terre ne se réchauffe à plus de 2 degrés Celsius, si possible même 1,5 degrés Celsius. Pour atteindre cet objectif, selon le GIEC, les émissions de gaz à effet de serre doivent être stoppées immédiatement. Si cela réussit, le niveau de la mer augmentera progressivement de 2 à 3 mètres en moyenne. Cependant, si le réchauffement de la Terre augmente de 2 degrés Celsius ou plus, le niveau de la mer montera de 2 à 6 mètres. En réponse à cela, le gouvernement indonésien a pris plusieurs politiques et efforts pour participer à l'amélioration du climat mondial. Parmi elles, la réduction du nombre de véhicules particuliers à mazout et le passage à l'électrique. En outre, mener diverses politiques de restauration de la forêt et de restauration de ses fonctions. Le gouvernement a également mis en place une politique de réduction des déchets plastiques et mise en œuvre de réduire, réutiliser et recycler dans la vie de tous les jours, à savoir réduire l'utilisation des biens, notamment le plastique, le réutiliser chaque fois que possible et recycler les déchets. Une autre politique adoptée par le gouvernement indonésien consiste à émettre des obligations d'État dans le cadre du programme d'atténuation des effets de serre connu sous le nom d'obligations vertes. Espérons que les efforts pour améliorer le climat au niveau international et national permettront de surmonter le problème du réchauffement climatique qui menace de plus en plus le monde. C'est Zuri Talk, c'est le commentaire pour ce soir.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 3 avril. On commence par le 3 avril 1922. Joseph Staline est devenu le premier secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Joseph Staline a été secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique jusqu'en octobre 1952. Le poste de secrétaire général du Parti communiste a ouvert de larges opportunités à Joseph Staline pour exercer une influence sur le cœur de l'administration du parti et a été en même temps un facteur majeur dans la lutte pour le pouvoir. Sous Staline, l'Union soviétique est passée d'une société paysanne à une superpuissance industrielle et militaire. Le 3 avril 2016, fuite des Panama Papers. Les Panama Papers sont une collection de 11,5 millions de documents classifiés créés par le fournisseur de services panaméen Mossack Fonseca. Ce document contient des informations détaillées sur plus de 214 000 sociétés étrangères, y compris l'identité de leurs actionnaires et directeurs. Le document répertoriait les noms des dirigeants de 5 pays, à savoir l'Argentine, l'Islande, l'Arabie Saoudite, l'Ukraine et les Émirats Arabes Unis, ainsi que des responsables gouvernementaux, des parents proches et des amis proches des chefs de gouvernement d'environ 40 autres pays. Ce document divulgué a ensuite été distribué et analysé par environ 400 journalistes de 107 médias dans plus de 80 pays. Le premier reportage basé sur ces documents, ainsi que 149 fichiers de documents, a été publié le 3 avril 2016. Le 3 avril 2017, attentat à la bombe dans le métro de Saint-Pétersbourg. Le 3 avril 2017, une attaque explosive a eu lieu dans le métro de Saint-Pétersbourg entre la station Senaya Ploskat et l'Institut Technologie Seski en Russie. 9 personnes sont décédées et 2 autres sont décédées plus tard des suites de leurs blessures. Une 50aine de personnes ont été blessées dans cet incident. Les engins explosifs sont stockés dans un sac. Une 2e bombe a été trouvée et désamorcée dans un autre train. L'attaquant a été identifié par les services de renseignement Kirghizistan et russe comme étant Akbarzan Jalilov, un citoyen russe de 22 ans né au Kyrgyz. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Sejurita, pour un bixou vang, t'as voici donc mon Indonésie et un pour le titre. La ministre des Affaires étrangères qui visite Séoul pour renforcer les relations entre l'Indonésie et la Corée du Sud. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a effectué une visite de travail à Séoul, en Corée du Sud, du 29 au 31 mars 2023. L'ordre du jour principal de la visite de la ministre Retno est d'assister au deuxième sommet pour la démocratie de réunion régionale anticorruption Indo-Pacifique et à la quatrième réunion de la commission mixte JCM Indonésie-Corée. La présence de la ministre indonésienne des Affaires étrangères au deuxième sommet pour la démocratie de réunion de régionale anticorruption Indo-Pacifique a fait suite à la participation du président Joko Widodo au deuxième sommet en ligne pour la démocratie le 29 mars 2023. C'était la déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères citée par Merdeka.com vendredi le 31 mars. En outre, le 31 mars 2023, Retno Marsudi a assisté à la quatrième réunion de la commission mixte indonésienne-sud-coréenne JCM avec le ministre des Affaires étrangères de Corée du Sud, Park Jin, au ministère des Affaires étrangères de Corée du Sud. Ces deux ministres des Affaires étrangères ont convenu lors de la réunion de souligner l'importance de la mise en œuvre concrète du plan d'action spécial de partenariat stratégique Indonésie-Corée du Sud, de l'utilisation de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Corée, IKCEPA, la réalisation accrue des investissements coréens dans des domaines stratégiques tels que les véhicules électriques, l'acier et la pétrochimie. Retno Marsudi a également invité le secteur privé sud-coréen à participer au développement de l'IKN Nusantara. Outre la coopération en matière de commerce et d'investissement, Retno a également exprimé son espoir que le gouvernement sud-coréen élargisse et augmente le quota de travailleurs indonésiens comme dans les secteurs de la soudure et des soignants. Au cours d'une série de visites de travail en Corée du Sud, la ministre Retno a également rendu une visite officielle au président de la Corée, Yoon Suk-yeol, le 30 mars 2023. Au cours de la réunion, en général, la ministre Retno a transmis le message spécial du président Joko Widodo au président Yoon afin que la Corée du Sud continue à renforcer le partenariat économique entre les deux pays, notamment en renforçant la participation du secteur privé sud-coréen dans divers enjeux stratégiques tels que l'écosystème de véhicules électriques, la sidérurgie et la pétrochimie. Auparavant, la ministre des Affaires étrangères Retno a pris le temps de rencontrer et de dialoguer avec les ambassadeurs, les chefs de représentants des pays membres de l'ASEAN, le MICTA et le Timor-Leste à Séoul mercredi. À cette occasion, Retno Marsudi a fait un bref exposé sur les priorités de la présidence indonésienne de l'ASEAN et du MICTA en 2023. C'est mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Yeah. but my heart skip beats when I first saw you. Reminiscing by the second when we first locked gazes. Got a feeling that you can't explain with phrases, yeah. I should probably get away now, cause I think Mars gonna burst, yeah. You're the first, wow. Don't believe in love, but I might think twice. Hope you get the code, my first love, it's you.
Coba selalu mendekat, berikan semua perhatian. Menunggu adakah tandaku untuk menjadi, yeah, untuk menjadi.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces auditeurs, les habitants de la résidence de Batanghari, Jambi, avaient l'habitude de cuisiner le déjeuner dans le jardin appelé talang ou ketalang dans la langue locale. Le plat qui est cuisiné s'appelle gulai talang. Le curry de talang est un menu hérité des habitants du sous-district de Mersam, la résidence de Batanghari, Jambi. La tradition de cuisiner le curry de talang est généralement destinée à déjeuner ensemble dans le jardin, car talang en langue Mersam signifie jardin. Ils préparent généralement le déjeuner à partir d'ingrédients faciles à trouver dans le jardin. Au début, l'ingrédient principal du curry de talang était la viande de canard, car les agriculteurs élevaient généralement des canards ou des poulets dans leurs jardins. En outre, ils utilisent également des perdrix et des chefs de souris de la chasse dans la zone autour du jardin. Les ingrédients sont simples, entre autres, le sel, les échalotes et l'ail, les piments, la coriandre, le gingembre, le curcuma et la citronnelle. Même s'il est cuit avec un minimum d'épices, le curry de talang a un goût unique. Les saveurs épicées, aigres, douces se combinent en un seul plat. Désormais, les habitants ne chassent plus le perdrix ou le chef de souris pour le déjeuner. Aujourd'hui, les habitants de Mersam ont créé ce menu traditionnel. La viande de canard, qui est généralement ingrédient principal du curry de talang, peut être remplacée par de la viande de poulet, de bœuf ou de buffle. Désormais, les résidents locaux ont pour tradition de manger du curry de talang appelé la cuisine de talang chez les résidents qui vont organiser une fête, en particulier ceux qui veulent marier leurs enfants. La tradition de la cuisine de talang est réalisée la nuit avant la tenue de la fête. Dans la tradition de la cuisine de talang, tous les résidents se rassemblent généralement chez les résidents qui organisent une fête et mangent ensemble de curry de talang. La population locale appelle cet événement manger ensemble appelé repas behidang. Le curry de talang est servi dans des plateaux avec du riz et des assiettes à dîner, un plateau pour 3 à 4 personnes. Lors de repas behidang, les résidents mangent par petits groupes, 3 ou 4 personnes face à leur plateau respectif. Sezuritap actuellement le curie de talent ne peut pas seulement être mangé lorsque la célébration arrive. Quiconque souhaite goûter aux spécialités culinaires de Batanghari peut les déguster dans les stands de nourriture de la région. Sezuritap, c'était notre programme Le Magazine Culturel aujourd'hui intitulé Le curie de talent. Nous nous retrouvons demain avec d'autres sujets intéressants. À bientôt!
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, Voici apprendre l'indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Signifie comment allez-vous? Vous allez écouter une conversation dont le titre est Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Signifie comment allez-vous? C'est une conversation entre Dev Singh, un touriste indien, et Datil, un guide touristique. Datil commence la conversation en demandant comment va Dev. Écoutons la conversation.
Selamat pagi, bagaimana kabar Anda?
Selamat pagi, kabar saya baik. Bagaimana dengan Anda?
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda signifie comment allez-vous? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Bagaimana? Bagaimana signifie comment? Kabar Anda? Kabar Anda signifie allez-vous. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda signifie comment allez-vous? Dans la conversation, vous entendez la phrase Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Signifie comment allez-vous? Dans cette conversation, il y a une expression Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Signifie comment allez? Parler par Datil pour demander comment va Dev comme moyen de commencer une conversation. Pour demander comment va quelqu'un, l'expression Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Signifie comment allez? Est suivi du mot de salutation de la personne, par exemple Anda. Anda signifie vous. Un autre exemple, en plus d'utiliser l'expression Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda signifie comment allez-vous? Vous pouvez utiliser l'expression Apa kabar? Apa kabar signifie comment allez-vous? Écoutons l'expression pour demander comment va quelqu'un. Apa. Apa signifie comment? Apa kabar? Apa kabar signifie comment allez-vous? Demander comment va quelqu'un, c'est une façon de commencer une conversation pour les Indonésiens. En plus des expressions Bagaimana kabar et Apa kabar, une autre expression parlée pour demander comment va quelqu'un est Sehat. Sehat signifie ça va en utilisant l'intonation de la question. L'expression Sehat. Sehat signifie ça va. C'est une alternative pour demander comment va quelqu'un. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Selamat pagi, bagaimana kabar Anda?
Selamat pagi, kabar saya baik. Bagaimana dengan Anda?
Chers amis, Voilà l'émission Apprendre l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Of Indonesia.
Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengaruh. Bersandar
menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan. Aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar. Kapalku telah bersau, aku tak ingin jauh. Padamu lah aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson kroncong intitulée Bunga Teratai, chantée par Henny Puriandari. Chers auditeurs, cette chanson a été composée par Marjo Kahar. Raconte la beauté de la fleur de lotus. Un type de fleur qui pousse à la surface des eaux calmes, comme les étangs ou les marécages. Dans cette chanson est décrite chaque matin, quand le soleil commence à briller, les fleurs de lotus se balancent, dansant dans l'eau claire. La beauté de la fleur de lotus peut réconforter un cœur triste. Bon, chers auditeurs, voici Henny Puriandari va chanter une chanson intitulée Bunga Teratai. Bonne écoute.
Berseri-seri
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.